Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
Bonjour Pascal Rostin.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes journaliste, photographe, co-auteur avec Bruno Mouron de l'incroyable enquête publiée par Jean-Michel Caradec chez Grasset. Son titre, Qui a tué Lady Di ? Ce livre événement paraît demain. Il est très attendu. Et merci une fois de plus de venir le présenter ce matin en exclusivité dans la matinale d'RTL. Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que vous avez eu accès aux 8000 pages du dossier d'instruction.
C'est une enquête incroyable parce que c'est une enquête qui a commencé il y a 12 ans et vous avez raison, on a récupéré les 8000 pages du dossier d'instruction et avec Jean-Michel Caradec et Bruno pour Paris Match au départ parce que nous sommes journalistes à Paris Match et l'enquête sortira en couverture et sur 8 pages jeudi dans Paris Match. On n'a pas appris par cœur les 8000 pages, mais on s'est vraiment plongé, on a étudié, on a cherché la faille, on s'est dit c'est pas possible, il y a quelque chose. Et puis il y avait évidemment toutes ces théories complotistes qui étaient diffusées par Mohamed El-Fayed. On essayait de comprendre ce qui s'était passé jusqu'au jour où, évidemment, on a trouvé... C'est quand même... Lady Di, il faut juste se souvenir de quelque chose. Évidemment que c'était une icône, mais je pense que tout le monde se souvient où il était le 31 août 1997, comme tout le monde se souvient où il était le 11 septembre 2001. Et pour certains... Yves, vous vous souvenez certainement où vous étiez le 21 juillet 69 quand Armstrong a marché sur la Lune.
Donc ça, ça fait partie. Ma mère m'a pas réveillé, donc je peux vous dire.
Mon grand-père m'a réveillé. et c'est vrai que c'est devenu des personnages, des icônes. Parce que ça a enflammé la planète.
Je viens au cœur, tout simplement, des nouveaux éléments que vous apportez dans cette enquête. D'abord, vous avez retrouvé. On procède par étapes, le propriétaire de la fameuse Fiat Uno que tout le monde a cherché pendant des semaines et des semaines.
C'est incroyable parce que c'est vrai que c'est les époux d'Ozo. C'est des gens qui rentraient chez eux, qui descendaient, pour ceux qui connaissent Paris, l'avenue Georges V et prenaient les quais et qui voient sortir cette Fiat Uno qui zigzaguait avec un chien et le mec n'arrêtait pas de se retourner. Ils l'ont décrit comme un chinois et c'est la femme du conducteur qui savait que c'était une Fiat Uno parce que sa mère avait la même et elle se souvenait qu'elle était immatriculée en Île-de-France. Et à ce moment-là, il est très important parce qu'il est le témoin, le seul témoin qui a vu l'accident. Et c'est confirmé quelques temps plus tard lorsque l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, reconstitue avec des débris de feu arrière-gauche à l'entrée du tunnel, qui a eu cet accrochage, que c'est une Fiat Uno. Il trouve qu'il y a 111 000 Fiat Uno qui ont été construites entre 83 et 87, et sur les 111 000, il y en a 5 000 en région parisienne. Je peux vous assurer que les mecs de la crime, il y a quatre sections de la crime qui recherchent cette Fiat Uno. À l'époque, ils sont un peu énervés parce qu'ils ont quand même un mec qui s'appelle Guy Georges qui est en train d'assassiner et violer des bonnes femmes. Donc, qu'ils soient chargés de cette enquête, ça les énerve un petit peu. Mais c'est vrai qu'au bout de la 2834e, ils tombent sur ce fameux chinois. Ils vont le faire récupérer par le GIGN et lui a un alibi en béton. Et parce qu'il a un alibi en béton, il sort de la procédure. N'empêche qu'on comprend que évidemment c'était lui. Évidemment c'était lui parce que ils n'ont jamais cherché le 2835e conducteur de Fiat Uno.
Et ce conducteur, il avait quelque chose à dire ?
Ce conducteur, il est très très important. Pourquoi ? Parce que c'est la brigade criminelle. Et ce que recherchent avant tout le juge Stéphane et les flics de la crime, c'est savoir si oui ou non il y a eu attentat. D'ailleurs, la carcasse, on demande à l'IRCGN de retrouver des traces d'explosifs ou de sabotage. Jamais on s'est intéressé à la voiture avant. Et lui, le pauvre chinois qui est avec sa Fiat Uno, lui, il est victime, il se fait rentrer dedans. Il n'est pas responsable, il est victime. Mais il est essentiel parce qu'il est témoin et il permet à la crime et au juge de définitivement clore les pistes les plus extravagantes sur un attentat.
Il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu d'explosif, maintenant on le sait. Alors on en arrive, je dirais, à la pièce clé de votre enquête, qui est tout simplement, vous avez fait témoigner l'ex-propriétaire de la voiture dans laquelle se trouvaient Dodi El-Fayed et la princesse Diana. Et qu'est-ce qu'on apprend sur cette voiture ?
Et en fait, vous êtes formidable sur RTL, parce que nous on a bossé 12 ans, il y a le film ce soir sur M6 qui est génial, réalisé par Manuel Lègre avec les équipes de Tony Committee. Il y a notre bouquin qui sort demain, il y a Paris Match et on va tout balancer ce soir en 5 minutes sur RTL. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'en fait cette voiture, c'est un VGA, véhicule gravement accidenté. On voit que vous n'avez pas été gendarmes tous. VGA. Et en fait, on apprend que cette voiture a eu une première vie et on peut pas imaginer, il faut se mettre à la place des mecs de la crime. Un véhicule du Ritz, une limousine qui a 11 000 bornes, on se dit c'est une bagnole saine. En fait, pas du tout. On a découvert, j'ai un ami qui s'appelle Eric Bousquet, qui est donc le directeur d'une grosse agence de pub qui s'appelle Business, qui était l'ancien propriétaire de cette voiture. Et quand il achète cette voiture neuve, quelques mois plus tard, trois mois plus tard, il est chez Babin, là, à côté rue de Pontieu, en train de se faire glacer ses pompes. Et Armando, son chauffeur, arrive en disant « Je me suis fait hijacker, braquer la voiture ». Les gendarmes la retrouvent quelques jours plus tard, près de la centrale de Villepinte, à côté de Roissy. Les gendarmes pensent que c'est des tollards en permission. Et elle a fait une dizaine de tonneaux. Elle est fracassée. Et cette voiture est remboursée par les assurances comme épave, donc administrativement une épave, et surtout part à la destruction. Et là, on rentre dans le milieu des ferrailleurs, des épavistes, des casseurs de la grande banlieue. Mais ils avaient l'autorisation à l'époque, avec une carte grise et une épave, d'essayer de la reconstruire pour en refaire un véhicule.
Pascal Rostin, j'insiste, ça veut donc dire que la voiture du Ritz dans laquelle Lady Di est morte
était une épave.
Était une épave qui n'aurait jamais dû revenir sur les routes.
Jamais. Et alors, le hasard est incroyable. Il se trouve que j'ai un ami qui était le chauffeur de cette voiture pendant un an au Ritz, Karim Kazi. Et Karim quitte le Ritz deux mois avant l'accident. La seule chose qu'il dit à M. Klein, le directeur du Ritz, il faut balancer cette bagnole. Et face caméra, ce soir sur M6, et dans le livre de Jean-Michel Kardec, le livre, franchement, le livre est génial parce qu'il n'est pas que sur l'accident, il replace aussi le personnage de Lady Di que les moins de 35 ans n'ont pas vécu à côté d'elle. On la connaît un peu mieux parce qu'on a vécu à côté d'elle. Et Karim, le chauffeur, donc, il dit quoi ? Il dit « Cette bagnole, au-delà de 60 km/h, on ne la tenait pas. »
Mais vous engagez à travers cette enquête finalement la responsabilité du Ritz. Le Ritz a fait circuler un véhicule et je suis désolé, moi je suis arrivé à cette conclusion après vous avoir lu, parce qu'en effet ce livre est passionnant, que finalement Mohamed Al-Fayed, pardonnez-moi,
Michel Kardec.
Oui, je vais y revenir, mais Mohamed Al-Fayed a contribué à la mort de son fils et de celui qu'il rêvait de voir être sa belle-fille, en laissant cette épave entre les mains des chauffeurs du Ritz.
Évidemment que civilement, il est responsable. Il se sent responsable. Pourquoi tous ces écrans de fumée ?
Mais il a soulevé la terre entière.
Mais pourquoi ces écrans de fumée ? Pourquoi ces millions dépensés dans des enquêtes privées ? Pourquoi remettre en cause les analyses sanguines ? Attendez, la brigade criminelle, c'est des gens qui ont fait un super boulot. Et lui dit, ouais, les échantillons de sang ont été échangés par le MI6. C'est le prince Philippe, parce que Diana était enceinte. Il voulait pas que la mère du futur roi d'Angleterre soit mariée avec un arabe. Enfin, je veux dire, là, on est dans le délire complet, mais vous avez raison. Pourquoi ? Parce qu'il se sent responsable. Oublions qu'il s'appelle Mohamed El-Fayed. Moi, Pascal Rostin, vous, Yves Calvi, demain, vous vous sentez responsable de la mort de votre gamin. C'est inaudible. C'est inaudible. Et à partir de ce moment-là, vous allez partir dans des délires. Et là, les délires, c'était un coup les paparazzi, un coup le MI6. Demain, ce sera les petits hommes verts. Parce qu'on ne peut pas concevoir d'être responsable de la mort de son gamin. Donc, on peut comprendre aussi la désespérance de Mohamed El-Fayed.
Ce qui n'exonère pas la responsabilité d'Henri Paul, qui lui, effectivement, avait bu, prenait des médicaments. Bah là, et on a absolument tous les détails là.
Là, c'est totalement délirant parce que c'est vrai que
sous antidépresseurs et sous médicaments devant normalement l'empêcher de boire.
Soyons précis.
Vous donnez même les adresses des pharmacies.
Soyons précis. Fluoxétine, Triapride, Prozac, Noctamide. Il prenait deux médicaments contre le sevrage, enfin pour le sevrage. Pas contre, pour le sevrage alcoolique, trois antidépresseurs, et il avait 1,81 g d'alcool dans le sang. Donc le mec était bourré, il était sous antidépresseur, il n'avait pas son permis de grande remise, il n'avait pas le droit de conduire cette bagnole.
Une dernière question, je vous demande une réponse rapide. Est-ce que vous attendez...
Rapide, jamais.
Il va falloir une réponse d'une quelconque façon de la famille Al-Fayed.
Je pense que le dossier est classé, je pense et j'espère finalement que Mohamed El-Fayed en a fait le deuil, et je pense que c'est intéressant, la date anniversaire 20 ans après, vous rendez compte, 20 ans après, que la lumière soit définitivement éteinte sur ce malheureux accident.
Lady Di est morte tout simplement parce qu'elle roulait dans une voiture qui était conduite par un homme qui ne pouvait pas le faire, et une voiture qui n'aurait jamais dû se retrouver sur la route, une épave, le soir de son décès avec Dodi El-Fayed. Merci beaucoup Pascal Rostin.
Merci.
Rappelle ce livre-événement, qui a tué Lady Di, qui paraît donc demain chez Grasset. Il est signé Jean-Michel Karadec, notre confrère de Paris Match, à partir de votre enquête avec Bruno Mouron. J'en profite pour rappeler le documentaire qui passe ce soir sur M6, Mort de Diana, l'incroyable révélation, à partir de 21h. Et tout le détail de tout ça, bien entendu, dans le prochain numéro de Paris Match. Et j'ajoute enfin que notre ami Jacques Pradel consacrera lui aussi l'heure du crime à la mort de Lady Di avec Jean-Michel Karadec, demain sur l'antenne d'RTL. Bonne journée à vous.
Merci, monsieur Calvi.
Merci d'être venu nous voir.